Alors, en fait, on a deux parties. Parce qu'on suit l'enquête à travers les yeux d'Alice qui va donc faire sa propre enquête avec un ami qu'elle va se faire, un camarade qui s'appelle Alex. Je ne me suis pas trop foulé pour les prénoms, je l'ai fait très, très proche.
Buffy.
Alice et Alex. Et puis, en parallèle, on suit l'enquête professionnelle.
D'accord.
Voilà, où là, du coup, c'est un narrateur externe. Et,
c'est Alexandre.
Et donc, là où on suit plutôt le côté adulte, du coup. Donc voilà, il y a les deux.
Parce que ça fait un moment que je pense que t'es sorti de l'adolescence.
Oui, il n'a jamais été adolescente non plus.
C'est pas très sympa ça.
Et du coup, je me demandais comment.
C'est hérite que tu dis ça.
Comment c'était ma question, un peu comment on écrit à travers un roman, enfin comment on revit des choses à travers les yeux d'un adolescent.
Alors,
est-ce que c'est des souvenirs ou est-ce que t'as observé un petit peu autour de toi? Puis les adolescents aujourd'hui sont peut-être différents de nous quand on était à nous.
En fait, il demande si t'es espionne des adolescentes.
Le téléphone sonne alors que j'ai pas encore dit ce qu'il fallait faire gagner.
Alors, je n'ai pas du tout travaillé sur le personnage, et en plus, c'est vrai que j'ai choisi de faire une adolescente parce que j'écrivais sur la plateforme qui était beaucoup fréquentée par des adolescentes.
Oui, d'accord.
Donc, je m'étais dit, voilà, pour plaire aux lectrices présentes, voilà, je vais faire dans ce style-là. Mais au début, il n'était pas du tout sûr de moi. Je craignais d'être totalement à côté au niveau de mon personnage, parce que oui, donc l'adolescence, je l'avais passé depuis quelques années, et puis il avait jamais été une adolescente, donc forcément, je craignais d'être à côté, mais les premiers retours étaient plutôt positifs. Et l'avantage que j'y ai trouvé, en fait, c'est que vu que le personnage ne me ressemblait pas du tout, il m'a très rapidement dépassé aussi, et du coup, j'avais l'impression que c'était plus moi qui écrivais, mais qu'elle écrivait pour moi, Alice.
Ah ouais, quand même.
Et ce sentiment, je l'ai moins ressenti, en tout cas, quand je l'écrivais avec des personnages qui me ressemblaient davantage.
Ah ouais.
Donc ça m'a pas déplu, en fait.
Et tu disais tout de suite, t'as plutôt un public de lectrices que de lecteurs ?
Oui, c'est pourquoi il faut help, c'est 90% de lectrices. Ouais.
D'accord.
C'est parce qu'il y a sa photo dans le bouquin.
Mais de toute manière, la littérature.
Il y a trois personnages féminins en couverture, je vois pas trop bien celui du milieu. Mais
il y a un garçon quand même sur la couverture.
D'accord.
Non, mais justement, c'est important quand même. Mais, de toute manière, la littérature en général, il y a plus de lectrices que de lecteurs. Donc,
Ouais.
En imaginaire, un petit peu, ça se ressent moins.
Ouais.
Mais sinon...
Vincent, par exemple, toi, tu sais, c'est toi qui as écrit un truc plutôt politique et tout.
Moi, j'ai vendu à deux personnes, une femme et un homme.
Mais une troisième, c'était une femme. Donc voilà, on est à 63.
Ah, je ne savais pas.
D'accord.
J'ai 50% de vente en plus. Oh putain.
Bon.
Allez, remets les Hanson.
Et Inceptio Édition. Donc, pour être édité chez eux, n'importe qui peut envoyer un manuscrit. Et il y a un comité de lecture.
C'est ça.
Une petite dizaine de personnes, je crois.
Même une bonne dizaine, parce qu'on est toujours entre 10 et 15. De 15 lecteurs et puis et davantage de lectrices d'ailleurs et alors après il faut que le manuscrit corresponde à notre collection qui est en fait Influence Imaginaire.
D'accord.
Donc là il s'agit d'un thriller mais il y a une petite part d'imaginaire, en fait je lance une petite piste où je mets dans justement des rêves où elle voit la personne disparue, où du coup ça donc il y a une petite référence à l'imaginaire, où ça peut être totalement de l'imaginaire mais voilà, où juste une influence. Parce que c'est de la lecture qui permet de s'évader, donc c'est ce que l'on recherche.
Je vois quand même sur votre site que vous avez, par exemple, publié A Walk on the Wild Side. Ça n'a pas l'air d'être.
Forcément,
je trouve la.
C'est de la fiction générale. C'est de la fiction générale, mais avec.
Je suis tellement heureux.
C'est de la fiction générale, mais avec une petite part de fantastique quand même.
D'accord, ok. Et alors, vous recevez combien de manuscrits
par jour.
C'est en fait ça va vraiment être par période, mais on en reçoit quand même je pense une cinquantaine par mois.
Ah oui, quand même. D'accord. C'est pas mal. Hein.
Ouais, donc c'est bien d'être plus d'une dizaine dans le comité de lecture.
Donc pour absorber, c'est quand même assez compliqué pour vous, j'imagine.
De toute manière, après sur les 50, on accepte un.
Oui, mais donc, il faut peut-être les lire. Il y a 50 qui sont limités.
Oui, après, si les trois premières pages, si elles sont vraiment nulles, ça sert à rien d'aller plus loin. Ouais.
Si la qualité est assez haute, ça fait beaucoup de travail.
Oui, c'est. Mais après, voilà. Donc, c'est le comité. Du coup, ça passe par le comité. Donc, entre 10 et 15 personnes qui lisent, chaque manuscrit est transmis à 3 personnes. Et puis, il faut qu'il y ait 3 coups de cœur pour ensuite qu'on l'étudie.
Et je vois sur votre site, donc vous avez 14 romans parus maintenant.
C'est
là.
Ça. Oui.
Ouais. En un an. Ouais,
plus 2 en poche aussi, du coup. Ouais.
Ah oui, alors donc vous sortez une collection poche là.
Exactement, ouais. Parce qu'on a démarré avec les Arcanes d'Emerald, justement, donc c'est le début.
Ok. Et je vois que vous avez aussi Soline et le monde des rêves abandonnés, qui a l'air d'être plus vraiment jeunesse là pour le
voilà.
coup.
Voilà. Avec une double lecture quand même. Donc les adultes peuvent également le lire d'une manière même différente des enfants. Mais c'est vrai qu'après, la cible principale sur ce roman là, on est comme sur de 8-12 ans en cible principale.
Ah ouais, quand même, ok. Très bien. Et donc vous avez Horizon aussi, qui a l'air d'être une. C'est une quadrilogie, non
Exactement. Ouais. Et le dernier
tome. Post-apo.
Voilà. Enfin, et le dernier tome sort le 6 décembre.
D'accord.
Donc voilà, il arrive. La saga sera finie pour Noël.
Ok. Et donc l'autre nouveauté, c'est Agravel ou l'envers du temps.
Oui.
Donc, tu peux nous en parler un petit peu.
Alors sorti du début octobre, c'est un peu un extraterrestre qui est assez difficile à présenter. C'est ça parle de Lucien Gravel, qui est une personne âgée qui vit dans une maison de retraite, qui est assez aigri par la vie parce qu'il a l'impression d'être passé à côté de l'histoire d'amour de sa vie. Et donc ça lui a un petit peu gâché toute son existence. Et donc la veille de sa mort, on lui offre 3 tickets qui lui permettent de revenir en arrière. Et donc il saute sur l'occasion, se disant que s'il peut revivre ce qu'il a raté, revivre cette histoire d'amour, eh bien il aura une meilleure vie. Sauf que rien ne se passe comme il le prévoit. Et c'est un bon questionnement aussi sur les regrets, justement. Mmh. Et sur sur l'utilité des regrets et des actes manqués.
Ok. Bon, est-ce qu'il y a des questions là autour de la table?
Non. On a bien écouté en tout cas.
Ouais, pour une fois, je
parle
entendu.
Bien. Hein.
On va passer au choix musical de Liam, donc Métrique. Hein,
c'est ça.
Ne me rajeunit pas.
You're gonna eat me up.
like a hammer. Donc vous êtes toujours dans Imaginaire sur le son 1.5 et on accueille trois nouveaux invités dans cette émission jusqu'à 22h. Trois invités qui nous viennent de la boîte qui fait beu. Ouais, contre, il faudra vous répartir les micros.
c'est bon.
Ouais. Merci. Oui, on vient de la boîte qui fait beu, ouais.
Donc, dans l'ordre, face à moi, Boris Beuzelin et Tony Emerio et puis Dominique Hennebeau. Boris et Tony, on était avec vous samedi dernier, c'était à la médiathèque d'Andarre pour une rencontre, on va dire, autour de l'imaginaire, en fait. Et puis une petite expo aussi, qui avec des trucs que vous aviez fait avant et puis des trucs futurs. Vous êtes venu ce soir, on va dire, faire la promo de Paria, donc bande dessinée, donc scénarisée par Tony et puis dessinée par Boris, dont le financement participatif est lancé depuis 3 heures.
3h12, très exactement.
Je regarde un peu sur Internet.
Mais je regardais avant de venir, on avoisine les 20% là pour l'instant, de 18-19, quelque chose comme ça.
Ah, c'est bien. Et donc chez Comics Initiative, on va reparler un petit peu d'eux. Donc, maison d'édition de bande dessinée. Qui dans la région peut-être, enfin, c'est quoi, une Vertour, quelque chose comme
ouais,
ça.
Ouais, c'est Vertour, oui, c'est pas très loin. Ouais.
Et mais par contre, qui font que du financement participatif, je crois, non?
Ouais. Pour l'instant, ils ne fonctionnent que comme ça, ouais, que par le biais du financement participatif.
Donc avec des tirages de, je sais pas, 300 exemplaires ou plus, peut-être ils ont.
Bah non, parce que si tu prends l'exemple du Foxboy de Lefebvre, en l'occurrence, on est plutôt proche du tirage initial à 1000. Donc
ah oui, d'accord.
Okay. Si... Ouais. Après, ça dépend effectivement des campagnes. Ouais. Et des bouquins, il y en a qui font plus difficile que d'autres à défendre et à vendre, du coup. Mais non, sur le titre de Laurent Lefebvre, ouais, c'était un peu plus de 1000, je crois même.
D'accord, ok. Donc, ils ont commencé par un bouquin sur Kirby, peut-être.
Ouais, sur Kirby 1,5, en fait, c'était un bouquin hommage. C'était plus un artbook qui rendait hommage à Kirby. Et puis, il avait demandé à plusieurs auteurs français et américains de participer à ce bien bel ouvrage, parce que c'est un gros bouquin. Et puis après, il a initié de la ce qu'on appelle de la création française avec Aurélien Ducoudray et puis un dessinateur dont j'ai mangé le nom, c'est honteux, avec Namta. Ensuite, il a enchaîné avec les Contes du Givre. Il y a eu Foxboy entre temps.
Qui va sortir là, ouais.
Ouais, c'est ça. Et puis, nous, on serait potentiellement les quatrièmes.
D'accord, très bien. Et parlons-en peut-être tout de suite. Alors, Paria, donc, c'est un projet que tu avais depuis longtemps, toi, Tony.
C'est pas un fond de tiroir, mais c'est un projet dont j'avais envie d'écrire les lignes il y a déjà très longtemps de ça, qui avait failli se faire à l'époque avec Eric Aumont, parce que c'est passé entre les mains de plusieurs dessinateurs. Et puis Dargou nous a planté à la dernière minute en nous disant son véritable raison, finalement. Mais bon, voilà, ça arrive très souvent dans le monde de l'édition.
Ah ouais?
Et on est passé à autre chose, et puis avec Boris, je crois que c'était au retour d'un Angoulême, on en a discuté dans la voiture, on se dit tiens, on pourrait potentiellement refaire ça, toi ça te branchait, moi ça me branchait c'était un truc auquel je croyais toujours. Il faut jamais balancer ses projets, hein, il faut toujours les garder dans un coin de sa tête. Et du coup, on est allé voir à Blois l'année dernière, c'était l'année dernière.
Ça doit faire il y a un an parce que c'était le week-end dernier. Là,
c'est j'ai proposé en fait le projet à Comics Initiative et puis du coup il a été plutôt emballé et puis voilà, un an après la campagne démarre.
Donc ton idée, toi t'avais d'abord pensé à un univers, c'était mélangé steampunk et super-héros, c'est ça.
Bah, super-héros parce que c'est un peu ma marotte quand même, donc sous différents angles évidemment, mais voilà, c'était quelque chose qui moi m'a bercé. J'ai commencé à lire les bandes dessinées, alors les classiques évidemment, et puis après j'ai découvert les Strange. Donc les comics par le biais de Strange, donc c'est quelque chose qui m'a vraiment nourri, c'est quelque chose pour laquelle j'ai vraiment de l'appétence, donc je voulais faire du super-héros et puis dans un univers steampunk, voilà, parce que j'aime aussi les gros boulons, les grosses machines, les mechas, enfin tout ce qui fait, voilà, tout ce qui est à base de vapeur me fascine, le 19e aussi, donc il fallait une histoire où on pouvait mélanger tout ça.
Et donc l'histoire va se passer à Paris, hein, parce que là j'ai vu que alors, donc dans le financement participatif, vous aviez un visuel déjà qui avait été donné depuis un moment où on voyait un genre de robot, je crois, et puis quelques personnages principaux au devant. Et puis là, aujourd'hui, on commence à dévoiler déjà une couverture alternative où on voit la Tour Eiffel à l'envers, explosée. Là.
Ça, c'est Boris, donc à la limite, peut-être plus en
parler. Le visuel avec la Tour Eiffel, c'est un visuel uniquement qui est fait pour situer l'action et le type d'univers. C'est pas parce que j'ai fait la Tour Eiffel à l'envers explosée qu'elle va être dans l'histoire.
Ah, d'accord.
Après, peut-être que Tony a prévu ça, je ne sais pas.
Ouais, ça peut être sympa.
Mais... c'est plus pour planter le décor, on va dire, que j'ai fait cette image.
Un des intérêts, d'ailleurs, de participer à des financements participatifs comme ceux que font Comics Initiative, c'est qu'il y a certaines... Vous achetez une version de la bande dessinée qui ne sera éditée que pour ce financement participatif, parce qu'après, finalement, on les trouve aussi en librairie, par exemple, au Repère des Héros.
Ouais.
Il y a des versions un peu uniques, en fait...
C'est ça, la couverture Ulule, en fait, c'est celle dont tu parlais, là, qui a une couverture blanche et une couverture noire, et du coup, celle-ci ne se trouvera que sur Ulule. On n'aura pas la possibilité de la voir en librairie, sauf si je me trompe, mais je pense pas me tromper en disant ça.
Non, je pense pas.
On ne pense pas mutuellement se planter en disant ça.
Alors, dans les questions, puisqu'on est toujours sur Ulule, le principe d'Ulule, c'est que plus il y a de donateurs, plus on débloque du contenu.
Les fameux stretch goals, ouais.
Exactement. Ouais. Est-ce que vous prévoyez du contenu additionnel parce que l'histoire, elle est déjà écrite?
Oui, c'est une histoire qui peut permettre. En fait, il y a quand même pas mal de personnages, et puis on peut effectivement se permettre des petits appendices. Et il a été évoqué avec Michael Jérôme, qui est le boss de Comics Initiative, de faire des petits appendices écrits, des petites nouvelles en fait sur certains personnages qui sont pas des personnages prépondérants dans l'histoire, mais qui pourraient à un moment donné venir peut-être parasiter l'histoire. Donc oui, il y a possibilité de rajouter des choses. Et puis je pense que dans les jours à venir, il a à cœur de révéler ça tout doucement. Je pense que dans les jours à venir, il postera des choses sur la page Facebook, sur sa page à lui, et peut-être aussi sur la page du projet, qui viendront enrichir l'univers.
Ouais, d'ailleurs, le premier objectif, c'est de rajouter 20 pages. Donc, en fait, est-ce que c'est 20 pages dans la BD ou c'est des trucs additionnels?
Ça, c'est des choses dont il faut qu'on parle entre nous. Il y aura forcément des trucs additionnels, immanquablement. Parce que c'est Boris qui aura le plus de boulot si on rajoute 20 pages de dessin à proprement parler.
Ouais. Non, j'avoue que c'est pas encore acté, tout ça. On navigue un peu à vue sur le contenu supplémentaire.
Il y a combien de pages de fait d'ailleurs? Je vois, il y a déjà 6 pages en noir et blanc là, qui sont dévoilées.
Oui, il y a 6 pages de fait.
Ah oui, ok.
Oui.
D'accord. Et ce sera en couleur par contre hein.
Alors ça c'est pareil, c'est en suspens pour le moment.
D'accord.
C'est vrai qu'à l'origine on l'a plutôt pensé et prévu en couleur. Mmh. Et puis très récemment, en faisant un petit peu le bilan pour la campagne, finalement on s'est dit qu'en noir et blanc c'était intéressant aussi. Donc je sais pas quel sera le...
Bah moi si on me demande, mais
définitif.
Oui voilà c'est ça. Ouais. Ça pourrait potentiellement faire partie des stretch goals, tu vois, d'un moment donné, de passer en couleur, alors que pour l'instant, c'est plutôt en noir et blanc.
Pour l'instant, c'est présenté tel que c'est présenté, effectivement, c'est plutôt présenté comme du noir et blanc.
On a eu vachement de retours sur le fait que le noir et blanc était assez charmeur.
Un peu à la Walking Dead, où en fait l'histoire prend le pas vraiment sur l'image.
Ce serait bien, ouais, puis c'est une belle comparaison, mais on reprend ça, on prend, il n'y a pas de souci.
Bon, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire alors de cette bande dessinée?
Avant, j'ai une question pour Tony, parce que voilà.
Ah zut.
Tu sors un peu de ta zone de confort, parce que je t'ai connu sur des petites BD plutôt humoristiques, d'ailleurs
ça
je ne mange plus de tartiflette quand je te lis.
Je suis navré.
Et alors, pourquoi est-ce que tu es parti sur quelque chose de plus sombre ou de plus sérieux?
Parce que je voulais pas me cantonner à faire ça en fait. C'est vrai que Sticky Pants dont tu parles, je pense.
Pas que, il y a aussi le labo pas mal.
Ouais, le laboratoire.
Rouleau Biscotto, c'est assez drôle aussi.
J'espère.
Drunken George, dont on va parler dans quelques minutes aussi avec Guillaume, c'est humoristique.
Ouais. Mais non, je sais pas. Alors après, je dis pas qu'il y aura pas d'humour dans Paria, parce que j'aurais peut-être du mal à m'en empêcher. Et puis de toute façon, ça, c'est des choses qui viendront se greffer au fur et à mesure de l'écriture de l'histoire. Non, c'est juste que j'avais une envie de dépeindre un univers un peu dépressif. Voilà, c'était dans le cahier des charges, parce qu'à l'époque c'était fait avec Eric Aumont, et lui il a de l'appétence pour les choses assez déprimantes de toute façon dans ses histoires, dans ses écrits, et c'est vrai que moi aussi, voilà, c'est intéressant. De toute façon on n'est pas unique, hein, à un moment donné moi je, voilà, j'aime bien me marrer en faisant de l'humour, en faisant du gras, en faisant du potache. J'aime aussi à un moment donné essayer de me prouver à moi-même, mais peut-être aussi au lecteur, que je suis capable d'avoir des écrits un peu plus compliqués, et puis peut-être un peu plus profonds, quoi. Un peu pompeux ce que je suis en train de dire, mais voilà, j'ai envie de ça.
Bon, et vous pouvez nous résumer un petit peu le pitch alors, donc de cette bande dessinée.
Tu veux...
Non. Ah non, le pitch, non, ça, c'est Tony ça.
Non, ça commence en 1896, donc on sait dès le départ qu'on est dans une France alternative, parce que c'est Paris la Nouvelle qui se remet de 2 ans de... J'ai dit une bêtise, non?
Non, ouais, je pensais à la Commune, ouais, je sais pas.
Ah, il y a peut-être des éléments effectivement qui peuvent rapprocher de l'histoire telle qu'on nous la connaît. Simplement, voilà, dans ce monde-là, ça s'est passé
différemment.
Il y a ce qu'on avait appelé la guerre des tribuns, qui a détruit une bonne partie de Paris à grand renfort d'attentats qui étaient menés par les Guides du Peuple, un groupuscule terroriste qui se sont appelés les Guides du Peuple. Et Paris se remet doucement de cette guerre, en l'occurrence, et le 10 septembre 1896, alors qu'il y a une date qui correspond à quelque chose qui s'est véritablement passé dans notre histoire à nous, à Paris, il y a 5 personnes qui sont enlevées. Alors, pas de 4 coins du monde, elles sont enlevées essentiellement en Europe, et 2 sont enlevées aux États-Unis, et puis se retrouvent dans une prison de verre, entre les mains d'un mania industriel, voilà, donc je ne vais pas forcément en dire un peu plus. Et ils sont là pour servir des dessins. Parce que là, le gars n'est pas du tout là pour faire le bien. Au contraire, il aurait plutôt des tendances à faire le mal plus qu'autre chose. Et comme il a le pognon, comme il a une armée à lui, comme il s'est dit, tiens, je vais me payer une équipe de super-héros. Donc voilà, c'est pour ça que le premier tome, en fait, porte le nom de Contraint et Forcé. Parce que voilà, ils deviennent une équipe, mais ils sont contraints et forcés d'obéir. Parce qu'il les tient par... j'allais dire les couilles, mais oui, c'est bien, je le dis. J'allais dire, voilà, il les tient par les... il les tient comme il les tient.
Ok. Et il y a quelques... Vous avez, sur Facebook, vous aviez dévoilé un petit peu de visuel, des trucs comme ça. Il y a pas mal de schémas, là. Ça vient d'où tu vois ce que je veux dire?
Ouais, c'est, bah, ça, c'est juste
pas mal. Il y a des plans de machines.
Ouais, des plans de machines, ouais, on va dire.
Merci. Il y a
un côté un peu BioShock, d'ailleurs, sur certaines machines.
Ouais, bah, alors BioShock, c'était une grosse influence, hein, clairement, steampunk. Non, c'est moi qui avais envie, fait, de participer un petit peu au truc. Et du coup, les plans, j'avais envie de reprendre les visuels de Boris et d'en faire des plans d'ingénierie. Parce que c'est ça aussi le steampunk, en fait, c'est quand même l'imagination au service de la technologie avec des inventions complètement folles. Et le graphisme, en l'occurrence, du singe de fer, ce qu'on a appelé le singe de fer, qui est un petit peu la main droite du grand méchant. C'est un type qui se balade dans un espèce d'androïde mécanisé qui lui donne un aspect de grand singe. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant de créer des faux plans, en fait, pas du tout des plans, et puis aussi d'amener un petit peu un espèce de code dans tout ça, parce que bien évidemment le grand méchant est totalement parano, donc tous ces plans sont codés.
Ok, très bien. Donc allez voir sur Ulule, donc c'est Paria, P-A-R-I-A-S.
Ouais, tout à fait.
Ouais, donc le financement participatif commence aujourd'hui et ça va
jusqu'au 7 janvier de mémoire, je crois.
D'accord, ok.
Il me semble.
Bon, alors moi j'ai des questions pour Boris, parce que on parle
aussi,
beaucoup
justement.
À Tony, et
c'est
beaucoup
vrai,
la
c'est
voix,
vrai,
mais
à chaque
normal,
fois il renvoie la balle.
L'initiateur du projet, pour le moment, moi je n'ai pas fait grand chose. Bah alors, justement, j'ai lu quelques petites choses de toi. Je pense notamment au Samson et puis au Nerval.
Oui, on en parlait.
On en a parlé un petit peu, et puis c'est pas la première fois dont on discute tous les deux. Et en fait, ça, toi, pour le coup, ça change pas beaucoup de ton domaine de prédilection, qui est vraiment le côté dépressif, pessimiste, et puis il y a des morts.
C'est vrai, c'est dans la continuité, on va dire.
Est-ce qu'à un moment donné, tu voudras partir dans l'humour?
Oui. On te sent à fond, là.
T'as des projets ou des choses comme ça?
Oui, j'ai un projet gag de signer.
D'accord. Voilà. Ça pour reprendre un petit peu comme
un projet
Tony.
Gag. Un projet d'humour, donc de la gag, du gag en une page.
Ouais, voilà.
Non, pas du strip, du gag en une page à la Gaston, à la Boulibille.
D'accord. Ok, super.
Ah, intéressant. Voilà. Ok.
Mais pour le moment, je ne dévoile rien de ça.
Ouais.
Et donc, tu travailles actuellement sur Paria, qui est en train d'être mis à bout. Et est-ce que tu as une préférence entre les couleurs ou le noir et blanc? Parce que quand on voit les couleurs, c'est très comics. C'est, on n'est pas sur la ligne claire, on est vraiment sur du, délié.
Les comics en noir et blanc. Hein.
Alors, moi, j'ai une grande appétence, pour reprendre les termes de Tony, pour le noir et blanc, effectivement. C'est-à-dire que mes pages, elles sont pensées en noir et blanc. Elles sont pensées quasiment pour rester en noir et blanc. Mais une page faite pour le noir et blanc peut être mise en couleur. Les pages de JG, par exemple, qui était un grand maître du noir et blanc, elles ont été très bien mises en couleur. Donc, bon, parce que souvent on dit les pages en noir et blanc, quand on met trop de noir, finalement, et que la couleur vient un peu casser l'expressivité du noir et blanc, mais c'est pas forcément vrai. Donc moi je le pense de toute façon en noir et blanc pour que ça tienne en noir et blanc, par contre. C'est-à-dire D'accord. qu'une page qui est pensée pour être mise en couleur, une fois qu'on enlève la couleur, souvent la page elle est désossée, quoi, il reste plus grand chose. Donc moi c'est pensé pour d'abord pour le noir et blanc. Il n'empêche qu'on peut rajouter de la couleur, on peut toujours rajouter de la couleur.
D'accord. Et alors, comment ça s'est passé? Tony est arrivé dans une voiture à bord de son Fiat Destrier et puis t'as parlé de son projet. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que ça t'a emballé? Qu'est-ce qui t'a touché?
Alors, je sais plus trop comment ça s'est passé. Je crois que le projet, c'est donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un vieux projet. Donc, un projet que je connaissais déjà, puisque j'ai vu Eric et Tony travailler dessus déjà il y a longtemps. Mais je crois que je suis passé à l'atelier, il me semble que ça s'est passé comme ça. Bon, c'est anecdotique, mais un jour, et il devait y avoir le dossier. Le vieux dossier d'Eric qui traînait, donc tu l'avais ressorti à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi. Et en retombant dessus, du coup, je ne sais plus, on s'est sans doute mis à discuter de ça, et puis, je ne sais pas, à ce moment-là, ça m'a donné envie de peut-être travailler dessus. Je devais être en recherche de projet aussi, peut-être, c'est possible à ce moment-là. Mais, et du coup, j'ai proposé à Tony, et puis on s'est dit, tiens, pourquoi pas, essayons.
Donc t'es arrivé, il y avait déjà un scénario plus ou moins écrit, du visuel déjà plus ou moins abouti. Comment est-ce que tu as fait pour y mettre ta patte
Alors non, moi les pages, bon Tony, par rapport au projet initial, il a complètement retravaillé, il a fait une nouvelle mouture en fait, parce qu'il a écrit pour Eric, donc Eric il a sa personnalité et son dessin qui va avec. Et puis c'est un vieux projet aussi, donc je pense qu'il avait envie de toute façon, en retravaillant, de remettre des nouvelles idées, de le refondre complètement. Et puis ça n'a plus grand chose à voir quand même avec
ça a complètement changé thématiquement et graphiquement.
Donc moi j'ai pris ça comme un projet neuf, c'est-à-dire comme si quelqu'un venait me proposer un scénario original que je ne connais pas, et puis après j'y mets mes intentions puis mon graphisme dessus, quoi. Alors j'ai beaucoup travaillé sur la recherche stylistique.
D'accord. Je parlais de BioShock tout à l'heure. Est-ce que c'est un avis de tous les deux? Est-ce que c'est toi qui l'as présenté? Comment ça se passe?
Alors je pense que BioShock c'est plus parce que toi ça te parle pas.
Mais non.
Voilà. C'est BioShock, ça. Donc, non, c'est plus moi pour le coup. C'est plus
c'est tout pour moi,
mon influence.
Moi je connais pas non plus. Hein.
Oh, mais ça c'est parce que vous êtes vieux.
Bah oui c'est vrai.
Non, moi aussi je suis vieux et je connais pour autant.
D'accord. Donc tu as fait ton projet, tu as dessiné, soumis ou non à Tony. Et une fois que tu as rempli donc ce scénario, que tu as dessiné ces scénarios sur storyboard, j'imagine, est-ce qu'il n'y a pas eu un moment donné où tu t'es dit que tu avais envie de raconter plus que ce que tu avais sous la main? Est-ce qu'il pourrait y avoir une suite? Des suites?
Alors, de toute façon, pour le moment, il y a un gros synopsis d'un tome 1 qui n'est qu'une partie de l'histoire. Mm-hmm. Donc déjà, moi, pour le moment, je ne connais que la partie 1 de l'histoire. Il y en avait 3 de prévues, peut-être une quatrième. Apparemment, t'as prévu de gonfler un peu plus l'histoire, de prendre plus de place. Mais après, je connais la fin de l'histoire, je connais les grandes lignes, mais après, je connais pas les péripéties en détail. Ça, peut-être que lui non plus, de ce qui va se passer dans chaque tome. Mais après, il m'a découpé 8 pages, donc qui correspond à l'introduction, voilà, du récit, que j'ai découpé, redécoupé. Et finalement, j'ai rajouté une page. D'accord. Dans ces 8 pages. Et mais bon.
Te connaissant très succinctement, tu es quand même quelqu'un de plutôt perfectionniste. Est-ce que ça t'embête pas de ne pas avoir accès à toutes les informations lorsque tu fais tes dessins, lorsque tu fais ton scénario, que tu imagines les lieux pour y placer l'action? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te manque ou tu trouves que c'est bon et de toute façon ça suivra?
Là on est dans l'imaginaire pur quand même. D'accord. Donc même si on s'inspire d'une époque, d'un Paris 19e, on est dans quelque chose, c'est totalement imaginaire. Donc moi je vais projeter mon imaginaire là-dedans. Alors puisqu'on parle d'imaginaire justement et de rapport au steampunk, moi j'ai pas un rapport avec le côté baroque et rococo du steampunk. Moi je vais avoir plutôt tendance à aller vers quelque chose de plus brut, de plus mastoc. Donc ça va pas être un steampunk avec tout un tas de trucs affriolants partout, des tas de petites arabesques et des machins comme ça. Non, ça c'est sûr, non. ça va être plus brut, plus brutal.
Plus d'écho que l'air nouveau.
Oui, exactement.
Merci. Ben, je repasse.
Mais il y aura de l'air nouveau quand même.
Non mais.
Pardon, oui.
Vas-y.
Ah mais moi je veux finir la.
Non,
la
mais c'est une excellente remarque. Oui. Plus art déco que nous. Exactement.
Et je repars
plus Baos que.
Ah mais je ne connais pas Baos. Baos aussi, quand même. Je repars sur Tony pour une question. Donc là, je viens d'avoir tout l'aspect graphique en fait. Et toi, en attendant, puisque le scénario est déjà fait, qu'est-ce que tu fais en attendant pour occuper tes journées, on va dire?
Pour occuper mes journées, bah,
à
je
part
suis
boire et...
et toujours. Mais on a un truc avec Dom, en fait, un bouquin sorti en 2020 qui va s'appeler Samy Parade. Pour le coup, on peut en parler. Hein.
Ouais, on pourra peut-être en parler un petit peu après le.
Bien sûr.
Bon, bah, tant pis, Dom.
Ouais, je voulais quand même en terminer avec Boris aussi. Il y a le tome 3 de Sanson qui vient de sortir. Donc ça clôt la trilogie dont tu étais venu nous parler ici.
Oui, bah, il est sorti en septembre, début septembre, enfin, ou je sais plus, début septembre, mettons.
Moi j'ai hâte de lire parce que à la fin du deuxième tome, il y avait un peu des surprises, quoi, des retournements de situation et tout ça.
Écoute, tu verras. Non, il est sorti, ça y est, ça c'est une aventure.
Et donc,
on passe à autre chose.
Je veux dire, pour résumer un peu, c'est l'histoire d'un personnage qu'on suit un peu à travers, peut-être pas des époques, mais plusieurs générations en fait.
Oui, c'est le fond de l'histoire, c'est une chronique familiale sur la dynastie des Sansons, donc une dynastie de bourreaux.
Qui ont vraiment existé. Hein. Ouais.
Oui, qui ont vraiment existé. Et en fait, toute cette période donc, qui couvre 150 ans à peu près est traversée par le personnage méchant de l'histoire, l'antagoniste, qui lui par contre traverse toutes les époques parce qu'il ne meurt pas.
Dans le premier tome ça s'accélérait quand même pas mal, on va dire on suivait pas mal de père en fils en fait chez les Brou, et puis dans le deuxième c'était plus
ça dépend des périodes effectivement. Il y a des périodes où on meurt plus vite, donc du coup on passe plus vite d'une père-fils, et puis le père il meurt jeune, donc encore voilà. Et puis il y a des périodes où il vit plus longtemps, donc ça s'accélère. Ça,
et le troisième tome, du coup, se passe alors sur quelle période?
Alors le troisième tome, il est en grande partie consacré à la Révolution française, ce qui était déjà le cas à la fin du deuxième, mais donc il y a tout, je dirais la moitié du tome est entièrement consacré à ça.
Ok.
Donc il y a un côté assez historique et assez fouillé dans celui-là. Et puis la dernière partie, il y a eu un petit saut dans le temps en fait, et on arrive au début du 19e, enfin même début bien avancé, premier quart du 19e en fait, voilà, okay. Période de Vidocq.
Avec toujours des références historiques.
Oui, c'est vrai, le fil rouge, il est aussi historique. Quoi. Donc là, dans le tome 3, on a le procès de Marie-Antoinette, on a la Révolution, la Terreur, la chute de Robespierre, et puis du coup après, on a la moitié du tome 3 s'arrête à la chute de Robespierre, la fin de la Terreur. Et puis là, on a un petit basculement. Donc, on parle pas de Napoléon, on parle pas de. Il n'a pas de rôle dans cette histoire. Et on arrive de 20 ans après, de mémoire.
Et l'amateur de souffrance, donc, en fait, c'est un personnage malfaisant qui se nourrit, en fait...
Pas de divulgaché, s'il te plaît.
Oui, je peux dire quand même.
Oui, il se nourrit de la souffrance des condamnés au moment de l'exécution.
Vous auriez pu l'emmener jusqu'à la Première Guerre mondiale aussi.
Ah ben, on peut très loin.
Non, je sais pas, est-ce que tu as réfléchi à ça après?
Oui, on y a réfléchi, mais je pense que ça s'arrêtera là, par contre.
D'accord. Ouais.
On va pas aller plus loin sur cette série.
Ok. Allez, on s'écoute le choix musical, un choix collectif, je crois, de la boîte qui fait beau. Vous allez voir.
Dom et moi, en fait, on en a pas parlé à Boris encore, mais il sera d'accord.
Et puis donc, on accueillera aussi Dominique Enbo pour Drunken George dans quelques minutes sur le 101.5.
À tout de suite.
Yop, là, attention, danger. Je vais peut-être me ranger à cause d'une fille danger. Les filles danger. Au concert d'Angers, elle s'est dérangée, on a échangé avec la fille d'Angers. Divine danger, merveilleux danger, je me suis mélangé avec la fille danger. J'apprends à le langer, le bébé danger, je n'ai qu'à louanger les filles d'Angers. Les filles d'Angers. Attention d'Angers. Les filles d'Angers. Attention d'Angers. Les filles d'Angers. Attention d'Angers. Quel bonheur d'être rangé grâce à une fille d'Angers. Yeah, c'était quoi ce choix là, les gars? Je ne connaissais pas, comment il s'appelle? Gilles Dor. Pourquoi?
Qui est Gilles Dor?
Parce que, tout simplement, il n'y a pas d'explication. Pourquoi? Quand on aime, on compte pas.
Ok, très bien. Donc, on accueille Dominique Enbo. C'est la première fois que tu viens dans cette émission, en tout cas.
Oui.
Est-ce que tu peux te présenter?
Très difficile comme exercice. Je suis dessinateur. J'avais travaillé dans plusieurs supports divers et variés.
Ouais.
Psychopathe, un peu chez Bambou. Enfin, voilà. Globalement, voilà, c'est ça.
Ouais, t'as des choses qui ont été publiées, je regarde ta biographie à la fin.
Sergent
Mastoc.
Enfin, tout ça c'est des vieux trucs. Hein.
Et t'as participé à un livre sur les Rolling Stones aussi?
Ouais, ça c'est chez Petit à Petit.
Qu'est-ce que t'avais fait?
Alors, je fais ce qu'on m'a donné de faire.
C'est-à-dire, ah bon?
Non, c'était sur... je sais même plus. C'était sur, le fait que Keith Richards et Mick Jagger n'écrivaient pas leurs chansons au début. Et du coup, il y a une petite anecdote qui fait qu'ils écrivent à un moment. Quoi. Voilà. Ils sont dans leur cuisine et puis je sais plus ce qui se passe. Enfin, ils ont... Je sais plus.
C'est un strip inventé, c'est ça?
Ah non, pas du tout, non. C'est historique et tout. C'est, c'est Philippe Manœuvre qui a fait le scénario. Non, c'est pas vrai. Non, franchement, je me souviens plus du propos véritable du truc, mais voilà, ça parlait de ça, quoi. Ça parlait du fait que les Rolling Stones, à un moment, se sont mis à écrire leurs paroles. Enfin, je sais même pas qui c'est qui écrivait avant, hein, mais... je crois que c'était le duo Keith Richards et Mick Jagger qui se mettaient en marche.
Je vois que tu as une bande dessinée publique qui s'appelle Rio Barjo.
Oui.
Est-ce que c'était déjà du western parodique, on pourrait dire?
Ouais, c'est des histoires qui sont parues dans un magazine qui s'appelait Arg.
Ouais.
Qui n'existe plus, malheureusement.
Quand?
Et donc, voilà, c'est chez un éditeur qui édite plein de trucs, quoi. Enfin, c'est, comment on appelle ça, un éditeur participatif aussi, non? Je sais pas comment on appelle ça. Enfin bref, on vient avec les sous et puis ils nous éditent. En gros, c'est ça.
C'est un éditeur à compte d'auteur, donc.
Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, bon, c'est pas moi qui ai ramené les sous, hein, mais c'est une association. Et puis après, ça a été très, très, très modeste. Hein, je sais pas à combien ça s'est vendu, je vais même pas le savoir d'annonce et modeste.
D'accord. Bon, alors Drunken George, donc, c'est aussi une idée de Tony.
Ouais, c'est une idée de Tony.
Tu peux nous en parler un petit peu?
Lequel des deux? C'est à moi que tu parles?
Ouais,
oui, oui, Tony, oui, ouais. Oui, c'est une idée. Alors c'est pareil, c'est marrant parce que j'ai l'impression que le mec fait que les fonds de tiroir, mais c'est une vieille idée qui avait.
Oui, tu parles d'un certain Fanch au début. Hein.
Ouais, c'était entre les mains de Fanch Juteau que vous connaissez peut-être ici. Et puis on avait pareil initié ce projet-là ensemble.
Alors, c'est passé avec Boris à l'atelier en même temps, je pense.
Hein, comment?
Je disais, j'étais passé à l'atelier avec Boris.
Oui, c'est ça, ouais. Quand les gens passent, je laisse subrepticement des dossiers, tu vois, sur les tables. C'est un vieux truc. Ils se sont tous fait avoir.
Et d'ailleurs, dans cette bande dessinée, entre les aventures de Drunken George qui sont liées, hein, qui racontent une histoire, il y a des petites pages où on te voit un petit peu harceler Dominique, en fait.
Ouais, mais il faut.
Dans votre atelier créatif.
Il faut rendre à César ce qui appartient à Dominique. C'est lui qui a eu l'idée de ces.
Ouais, j'ai pas pris ça comme du harcèlement. Non, on a bien rigolé, en fait.
Ouais, on s'est surtout énormément marré à le faire. Après, je sais pas si.
Ça se passe pas qu'à l'atelier, des fois vous allez au bar aussi.
Oui. Bah après, c'est de la BD documentée, hein, donc.
Ouais.
Il faut quand même potasser le sujet.
J'ai bien compris. Donc l'idée, est-ce que c'était d'avoir un personnage alors on parlait tout à l'heure avec Vincent dans ton tome 1, donc ton personnage qui subit en fait un petit peu plein d'histoires, mais alors là George subit aussi, en fait il est bourré pendant quasiment toute la longueur de la bande dessinée.
Ouais, bah...
parce que ça s'appelle Drunken George.
Ouais, mais... voilà. Mais c'est oui, après moi ça me faisait marrer de créer une légende de l'Ouest entre guillemets d'un type qui est bourré, donc il passe à côté de tout ce qui gravite autour de lui, mais il a cette
des balles même.
Ouais, c'est ça, cette espèce de chance, ce karma qui fait que il accomplit de hauts faits. Enfin, en tout cas, on lui attribue ces hauts faits, alors qu'il est absolument pour rien et qu'il ne bite rien à rien, rapport au fait qu'il est complètement torché. Ouais.
En même temps, sa situation n'est pas super viable, voilà. Hein, parce que le pauvre.
J'allais y venir. Il y a quand même un côté un peu dramatique. Hein,
Voilà. Ouais. Le pauvre. Enfin voilà, on va pas divulguer trop de trucs.
Vous allez aussi assez loin dans l'humour. Je sais pas si je peux employer le mot scabreux, mais.
Ouais,
c'est un peu trash.
Je me suis dit assez trash. Une BD de sale gosse, un peu.
Ouais.
J'aime bien moi, dire ça. Quoi.
D'ailleurs, ça commence par des sales gosses en fait qui vont fouiller dans le grenier, enfin même sous le lit de leur papa et qui trouvent en fait ce manuscrit quoi.
Ouais, ils préfèrent en fait lire ces revues-là plutôt que les revues érotiques qu'il y a. Donc c'est pas ce qui est scabre que ça, tu vois finalement. Ils se lancent en fait sur la lecture de ces comment on appelait ça à l'époque des feuilletons illustrés, ouais, c'était des. Ça existait vraiment, hein. Il y avait vraiment des fictions en fait, comme des ça. Pulp. Ouais, des pulps, les premiers pulps.
Ouais, ou alors comment on appelle ça chez le Carnoplast, là, des fascicules.
Des fascicules, exactement, ouais. Merci. Ouais.
Et donc, Dominique, alors tu peux nous parler un petit peu du dessin
alors, la façon dont ça a été fait, c'est un peu un accident. Enfin... Non, c'est vrai.
T'étais bourré, peut-être?
Non, j'étais pas, non, pas spécialement.
Pas spécialement.
Mais en fait, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle le découpage, le storyboard. Et je me suis dit, tiens, si j'en crée le storyboard. Et puis, et en fait, je me suis dit, mais ça tient, c'est rigolo. Puis je l'ai montré à Tony, puis on est parti comme ça. Enfin, je suis parti comme ça, je me suis senti à l'aise. Et puis, après, voilà, il y a toute une bidouille de couleurs. Il y a des gris mis sur les originaux. Enfin, bref, c'est toute une petite...
Il y a un côté assez rétro, d'ailleurs, dans les couleurs.
Ah, merci. Ouais.
Je sais pas comment...
Non, bah ouais, ouais, ouais. Bah oui, je peux pas m'en détacher de ces trucs rétro. Ouais, j'aime bien les trucs rétro.
Et à propos du dessin aussi, alors il y a un moment où genre je n'ai plus bourré parce qu'il est défoncé. Et là, le dessin change complètement. Est-ce ouais. que. Ouais. Ah, bah c'est toujours toi qui dessine quand même à ce moment-là. Ouais.
Oui, oui. C'est pour les besoins de la séquence. On essaye de se traverser.
Séquence un peu psychédélique, on peut dire. Ouais.
Ouais. Et encore, je trouve que je m'en suis plus ou moins bien tiré. J'aurais pu faire un truc encore plus acide. Mais bon, ça passe.
Ok. Donc, bande dessinée qui est sortie donc, chez Monsieur Popcorn.
Ouais.
Oui.
C'est sorti vendredi.
Ah ouais.
Vendredi 22, oui. Donc, c'est tout récent.
Et donc, qui font aussi de la bande dessinée pour adultes. Alors, parce que moi, je connaissais que... C'est peut-être Monsieur Popcorn Kids, en fait. Hein.
Que tu connaissais que... Bah, après, Sticky Pants, c'est aussi chez Monsieur Popcorn.
Ah oui,
donc,
oui,
ils font aussi de la bande dessinée adulte,
ouais,
effectivement.
Donc c'est
Mais effectivement, il y a une gamme Monsieur Popcorn Kids, ouais, parce qu'ils essaient de se racheter une conduite. Et du coup, ils sortent des choses pour la jeunesse.
Donc, c'est pas avec Drunken George que... Ouais,
non, là, pour le coup, non. Là, pas du tout dans la collection Kids.
Est-ce que vous aviez des influences dans le western?
Ça, c'est, j'en ai plein, enfin moi j'en ai énormément, mais c'est essentiellement western italien moi qui m'a nourri. J'ai un papa qui m'a initié super tôt à tout ça, quoi.
Mais dans le côté caricatural des personnages, en fait.
Ouais, bah ce qui est marrant, c'est que vraiment môme,
ouais, côté cradingue,
ouais, tu vois, j'ai commencé, alors c'est marrant parce qu'il m'a dit ça, c'est vraiment, tu vois, la quintessence du western. Et du coup, bon, j'étais jeune, j'étais obligé de le croire, puis j'avais que ça comme point de comparaison. Il m'a montré Trinita tout près.
Ouais, okay.
Et bon, quand tu creuses un peu, tu vois bien que c'est pas vraiment la quintessence du western spaghetti. Après, j'ai découvert Léon et tout, voilà, tout ce qu'on découle. Et là, pour le coup, j'ai vraiment pris des claques. Je suis pas tellement les westerns, comme tu disais, à la John Wayne, enfin les trucs qui sont un peu plus propres sur eux, quoi. Tout ce qu'on voyait notamment dans la dernière séance, ça m'intéressait pas. Non, j'étais vraiment sur tout cet aspect un peu crasse-pouille, un peu dégueulasse, sur les gros plans, les mecs qui transpirent, qui ont des auréoles, enfin qui descendent jusqu'au genou quasiment. Ça m'a toujours plu. Donc voilà, c'était un hommage à ça.
Et Dominique, toi, dans tes influences, enfin comment tu vois ce monde du western?
J'ai l'impression que c'est Jean-Pierre Mocky qui fait un western. Je vois pas trop. Enfin, non, pour moi, le western, c'est une façon de. C'est tellement codé, tellement. Enfin, finalement, c'est pas l'histoire de l'Ouest, quoi. C'est fantasmé et tout ça. Donc, on peut tous permettre, je trouve. C'est juste un prétexte pour raconter des histoires un peu rigolotes. C'est comme ça que je vois le western, en tout cas. C'est pas spécialement une marotte ou un truc. Bon, j'aime bien, hein, mais. C'est pas un truc, j'y vous pas un culte. De toute façon, moi, j'arrête pas de changer d'avis, comme de chemise. Voilà, un jour c'est ça, un jour c'est autre chose.
Mmh. Alors, au moins, ça vous laisse déjà, vous pouvez y aller pas mal dans la violence, en fait, parce que voilà, c'était un monde.
Dès
qu'il y a des mecs qui s'engueulent dans le saloon, bah, ils se flinguent. Hein,
mais c'est de la violence un peu ridicule, hein, quand même.
Oui, c'est assez grand guignol, hein, dans tous les cas. Donc...
Ouais, enfin, il y a quand même. Bon, je vais pas spoiler, il y a quand même des enfants qui se font méchamment punir.
Ils ont pas
ça commence même par un animal qui est méchamment puni.
Non, mais ça, c'est ma petite touche à moi. Du coup, je peux pas m'en empêcher.
Moi, je voulais pas dessiner ça. Mais
c'est vrai. En plus, il voulait pas vraiment le dessiner au départ.
Ah ouais. Pourtant, c'est dessiné relativement bien cadré. On se laisse pas de place à la interprétation.
Oui, c'est ça. Ça laisse pas de place au doute. Et puis, dès le départ, on sait qu'on sait où on est, je pense. C'est l'avantage de.
On ment pas sur la marchandise, c'est sûr.
Ok, très bien. Bon, alors quels sont vos projets respectifs à tous les deux
On est sur
oui, donc, voilà.
Quelqu'un qui s'appelle Samy Parade.
Ouais, alors ça fait un peu.
Ça fait Parade, Parade.
Ouais.
Et je crois que c'est ça, c'est ce qu'on va faire. Hein. C'est,
c'est ça.
Une espèce de bouquin journal avec plein de petites rubriques. Un début d'histoire que peut-être que je laisse Tony résumer.
Oui, on peut aller rapidement là-dessus. Ça démarre aux enfers, et puis il y a Satan qui déplore que L'apocalypse, effectivement, ça arrive. Hein. Clairement, on va se le prendre dans la tronche dans pas longtemps. Mais ça avance pas assez vite. Parce que lui, il a des actionnaires. Il doit rendre des comptes. Et bon. Et il crée une réunion de crise avec tous les démons majeurs. Et ils sont un peu désarmés face à tout ça. Quoi, parce que bon, ils voient bien qu'on est une espèce autodestructrice. Mais lent. Quoi, clairement lent. Donc, ils voient pas comment accélérer le processus. Et il y a le fils de Satan, alors c'est pas véritablement son fils, mais dans l'histoire ça l'est, Samael en l'occurrence, qui est un démon, qui dit, qui est tout petit hein, contrairement aux autres, et qui dit moi j'ai une idée, on va faire un magazine pour pervertir la jeunesse. Et donc il est envoyé sur Terre pour faire ce magazine, donc il y a une mise en abîme dès le départ, c'est-à-dire qu'on lit le magazine qu'il est en train de créer, donc voilà, ça s'appellera Samael Samiparad, et avec un sous-titre qui encore une fois laisse pas de place aux adultes, on a décidé d'appeler ça Samiparad, les adultes ça pue du cul.
Et toujours réservé à un public adulte, donc.
Ouais, plutôt. Bah après, je pense qu'il va être. Ouais. Encore une fois.
Ouais, on va peut-être plutôt le tirer vers les, un peu vers les enfants, un peu.
Mais les sales gosses, tu vois vraiment les.
D'accord, ok.
Ceux qu'on peut pervertir. Enfin, c'est le but d'ailleurs concrètement.
Bon et puis sinon, ton actu Tony, c'est aussi le tome 3 de Rulio Biscotto.
Ouais, qui est dessiné mais qui doit être colorisé. Et ça, là, pour le coup, j'ai pas.
Non, le tome 4 alors.
Le tome 4.
Ouais. Le tome 3 qui est sorti.
Ah oui, pardon, oui, autant pour moi. Ouais. Qui est sorti, oui, c'est, fin septembre, je crois, un truc comme ça, Rulio Biscotto, ouais, 3. Donc, du coup, qui se passe avec.
Donc, notre petit cacheur mexicain et tous ses amis qu'on retrouve toujours d'un tome à l'autre.
Ouais, exactement. Et puis là, ils sont aux prises.
Pour enfants, on est bien d'accord.
Ah oui, Rulio Biscotto, c'est définitivement pour les enfants.
Ma fille qui a 5 ans adore.
Bah du coup on l'embrasse. non mais oui là clairement c'est vraiment pour les enfants, je cloisonne.
Elle adore le gag du chien qui urine partout.
Mais je suis fan.
Et sur tout le monde.
Bah bien sûr. Effectivement. Non mais oui voilà, il y a des choses qu'on remet mais je pense que ça reste pas non plus hautement transgressif, c'est des gags qui font marrer tout le monde. Donc oui là en l'occurrence il est aux prises avec un japonais qui vient passer ses vacances au Mexique et qui trouve que le Mexique c'est tout pourri, donc il y a un duel de pays en fait. Non, le Mexique c'est pas si pourri que ça, si le Japon c'est carrément mieux, on a de la technologie, vous êtes juste en train de jouer avec des pneus, donc c'est minable. Voilà, donc il arrive avec un casque de réalité virtuelle et ils se font un duel à grand renfort. Enfin, il y a des épreuves, il y a une épreuve sportive, il y a une épreuve culinaire, il y a une épreuve. Enfin, je vais pas tout dévoiler, mais voilà, c'est ça, c'est l'idée.
Et le tome 4, tiens, ce sera vraiment. Il est annoncé à la fin du 3.
Ouais, il a annoncé
le Chupacabra, c'est ça.
Le Chupacabra, ouais, bah, qui est une légende mexicaine qui existe véritablement. Une espèce de vampire qui décime les. Qui décime les chèvres.
Je me rappelle de l'épisode d'X-Files aussi, là.
Ouais, voilà, il y a les Chupacabra, on le retrouve assez régulièrement. Et là, en l'occurrence, ils sont tranquillement en train de camper dans la jungle au pied d'une pyramide. Et puis, ça se passe pas comme ils avaient prévu. Ils avaient juste prévu de faire griller des saucisses. Et non, finalement, non. Ils étaient trop proches de la pyramide. Voilà.
Ok.
C'est ça, pitch du 4.
Bon, ben merci d'être venu nous parler de tout ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait, Romal ? T'auras pas le temps de faire ta chronique. Eh ben, on va faire gagner un sac. Il reste des lots du mois de l'imaginaire. Il restait des trucs à la. Ouais. Non, Pierre-Marie, tu voulais.
Ouais, moi j'avais prévu une chronique un peu plus longue pour deux romans, dont un roman steampunk.
Bon, alors donc on terminera par un blind test en fait dans cette émission. Et voilà, vous pourrez appeler.
Tony venant, Boris venant, on allait parler de Paria. J'allais parler de steampunk. Et ben non, je ne parlerai pas de steampunk sur cette émission-là. Par contre, je ne peux pas passer à côté d'un petit livre que j'ai récupéré. C'est la collection Helios. C'est le poche d'un roman qui était sorti chez les Moutons Électriques de Nancy Kress. Ça s'appelle L'une rêve et l'autre pas. Et c'est en fait Bienvenue à Gattaca, pour ceux qui se souviennent du film. L'idée, c'est à partir d'un certain moment dans notre futur très très proche, on va pouvoir choisir le gène de nos enfants. Un riche milliardaire industriel, lui aussi, a décidé que sa fille serait... Il allait choisir les gènes et il allait lui donner un gène particulier. Celui de lui donner un gène particulier, c'est fou. Celui de ne pas avoir besoin de permis. C'est fou tout ce qu'on peut faire quand on a besoin de permis. Sauf que voilà, tombe enceinte et elle a des jumelles. Mais l'une n'a pas besoin de dormir, l'autre aussi. Et donc ça va être l'opposition entre la nature et la technologie, extrêmement intéressant. Par rapport à Bienvenue à Gattaca, on est plutôt du côté Bienvenue à Gattaca, on suivait un personnage qui était naturel et qui essayait de s'en sortir dans un monde où la disparition est là.
Mais on suivait aussi un handicapé.
Exactement, là c'est l'inverse, on va suivre le personnage qui est génétiquement modifié dans un monde qui est le nôtre puisque c'est très proche, et la ségrégation est l'inverse. C'est, on a du racisme, on a de l'antisémitisme, et là on est contre les personnes qui ne veulent pas dormir, qui ne peuvent pas dormir puisque c'est partie de leur gène, et il y a une guerre qui se prépare.
Voilà, et il y a tellement d'idées dans ce bouquin que c'est dommage qu'il fasse qu'à peu près quoi 100 pages, quelque chose comme ça.
Hein. Ah, je pense qu'elle aurait pu faire. C'est un truc qui est minuscule. Ouais. Pour
c'est
vous dire,
dommage,
c'est ouais, 140 c'est, pages.
Je trouvais ça super intéressant et trop.
Je l'ai lu en 2 heures.
Trop court en fait.
Et franchement, ça a été une de mes plus grosses claques du mois dernier.
C'est vrai qu'il est très très bon. Bon, alors on termine avec un blind test. Alors, je vous dis pas ce que c'est cet album. C'est un musicien français qui fait de la pop plutôt rétro-futuriste. Je vais pas dire le nom. On va faire gagner donc quelques. Alors il y a des bouquins, une tasse, un jeu de cartes Bragelonne. On a tout dans un sac. Donc vous pouvez appeler le 02 41 60 47 47. Donc c'est un musicien français qui a fait cet album. Je vais pas dire le titre non plus. On va dire ça raconte un voyage dans l'espace. Ils ont fait un album instrumental. C'est un groupe où il y a une chanteuse d'habitude qui chante. Et en fait le mec s'est dit il manque un truc. Bon, je vais refaire mon disque et je vais raconter une histoire. Et il a invité une voix off en fait à raconter l'histoire qu'il écrit par dessus. Donc il va falloir deviner qui est cette voix qu'on va entendre.
Et n'hésite pas à rappeler le numéro que
02 41 60 47 47. Qui est la voix? Vous l'avez pas mal entendu à la télé, mais dans les années 80. Peut-être que vous n'étiez pas né.
Les dernières embardées de l'Astérion avant le contact avec le sol de Neuron me mirent au supplice. Quelque chose d'incompréhensible se produisait à des intervalles irréguliers. Sans que les appareils de mesure ne puissent l'annoncer d'aucune sorte, la gravité se montrait fluctuante. D'un instant à l'autre, elle n'était plus la même, faussant toutes les manœuvres conventionnelles d'atterrissage. La recherche d'un point d'équilibre avant le dernier jet d'énergie des propulseurs semblait impossible. Mais j'entrepris ce que je savais faire le mieux. Au lieu de contourner le problème en forçant l'atterrissage, je déconnectais le calculateur et tentais une approche dite de pose sur un nuage. Posez-vous sur un nuage était une manœuvre que des bâtiments d'ancienne génération comme l'Astérion pouvaient entreprendre. La trajectoire ressemblait à un vol plané. Il fallait se rapprocher de la surface sans tenir compte de la prise de vitesse. Impossible de rentrer de tels paramètres dans l'ordinateur de bord. Trop de variables, trop d'arguments dehors de la sécurité, trop d'instabilité, trop de tout. À l'aide de mon assistant personnel, je me débarrassais rapidement de ces contraintes. L'assistant personnel était programmé pour obéir aux commandes du pilote, quelles qu'elles fussent. Et bien que l'assistant ne puisse empêcher de me rappeler les conséquences possibles de ma manœuvre, avec ses pourcentages d'échecs élevés, il s'exécuta en appliquant toutes les instructions que je lui donnais.
Bon, personne n'a trouvé, en tout cas au standard du son 1.5, par contre, il y en a qu'on trouvait ici. Et c'était Dominique Paturel, donc comédien français, mais quand même plus connu, je pense, pour ses doublages. Et notamment, il doublait Terence Hill, par exemple. C'était la voix d'Hannibal dans l'Agence Tourisme. Ça vous dit rien? Non, mais vous êtes tous trop jeunes. La voix de Jonathan Hart dans L'Amour du Risque. Et J.R. dans Dallas, quand même.
Ah bon? Alors ça, par contre,
Et aussi Roy Kinnus, David Vincent dans Les Envahisseurs. Et effectivement, c'est lui qui introduit Capitaine Flamme au début de cet épisode. Bon, alors Pierre-Marie, qu'est-ce que vous voulez dire? On a 2 minutes encore avant ça dégouline dans le cornet.
Eh bien, il y a ce week-end pour l'agenda. Ouais. Il y a les rencontres de l'imaginaire à Sèvres. C'est ce week-end, c'est samedi. Voilà.
Ah bah d'accord, ok, c'était
c'est tout
très
ce que
court.
J'ai à dire. J'y vais et c'est important d'y être.
Allez, on rappelle le financement participatif de Paria sur Ulule, donc a commencé aujourd'hui. Romain, tu avais aussi quelque chose à ajouter dans l'agenda?
Absolument pas.
Moi, je voulais dire qu'il y avait une expo Last Man à Paris, mais alors je me rappelle plus trop où c'est. Puis en plus, c'est jusqu'au 30 novembre, c'est dans une galerie.
C'était l'agenda de Jean-Michel à peu près.
Ouais. Et on va terminer justement avec le générique de la série animée. Voilà. En attendant la saison 2, moi j'attends ça, qui a été annoncé, je ne sais pas trop ça va donner. Allez, ça dégouline dans le cornet dans quelques minutes sur la 100.5. Et bye bye, merci à tout le monde. À plus. Et du coup, on ne sait pas quand on se revoit, nous.